This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir dans la bande de Gaza, en Suède, en Europe. L'Europe toujours très attentive aux législatives françaises. C'est le menu d'ailleurs dans le monde tout à l'heure avec Michael Thébault. Culture, Dominique André à Pékin où une exposition du musée de Saint-Étienne remporte une fois encore un incroyable succès. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur la crise des gauches en France, en Europe, dans le monde. Tout de suite, le Code du travail.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Après la loi de moralisation de la vie publique, la réforme du Code du travail sera le premier grand chantier du quinquennat Macron. La méthode est connue. Le gouvernement procédera par ordonnance, ainsi que la philosophie générale du texte qui entend flexibiliser, comme on dit, le marché du travail. Alors, petit tour d'Europe ce soir. Étape à Londres, Berlin, Madrid, Stockholm, pour voir comment nos voisins abordent ce sujet. Et ici en studio, Éric Heyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Département analyse et prévision de l'OFCE. Le postulat de la réforme, Éric Heyer, c'est que le marché du travail en France est bloqué. Ce constat qui conditionne tout le reste, est-il vrai pour commencer?
Il est partiellement vrai, c'est-à-dire que globalement, effectivement, c'est très difficile de savoir s'il est trop rigide par rapport à d'autres pays, mais l'OCDE se risque à cet exercice et effectivement, quand on regarde l'indicateur de l'OCDE, on a plutôt une protection de l'emploi qui est un peu plus élevée en France qu'ailleurs, donc ça peut être une piste, effectivement, mais quand on regarde de plus près, ce qui est protégé, extrêmement protégé, ce ne sont pas les CDI, contrairement, vous voyez, en Allemagne, on protège beaucoup plus les CDI qu'en France. En revanche, les CDD ou les emplois un peu précaires sont un peu moins précaires en France qu'ailleurs. Donc, en fait, ailleurs, on a plutôt précarisé les précaires pour essayer de créer beaucoup d'emplois de faible qualité. Et c'est comme ça qu'on a créé beaucoup d'emplois. Donc, c'est vraiment à deux versants. Et puis, il faut voir que dans les pays qui ont mis en place ces réformes-là, ils les ont accompagnés par des politiques d'accompagnement qui soit coûtent cher aux finances publiques, ce sont les pays scandinaves, soit par des politiques macroéconomiques plus accommodantes, c'est-à-dire soit une banque centrale qui aide, ça c'est plutôt le modèle anglo-saxon, soit finalement on laisse un peu filer les déficits. Et ça, c'est dans un certain nombre de pays. Donc attention, la réforme du travail n'est pas le seul endroit et la seule chose qui permet de créer des emplois.
Est-ce que les salariés français ont trop de droits?
Alors, non, disons qu'il y a une dualité sur le marché du travail. Donc, il y a certains salariés qui ont plus de droits que d'autres. Alors ça, c'est cette dualité, on la retrouve dans beaucoup de pays. Et donc, effectivement, ça peut poser problème. Et effectivement, on peut voir qu'en France, on a un marché du travail qui est quasiment au plein emploi. C'est-à-dire, ce sont des travailleurs qui ont un bon niveau de diplôme, qui ont un bon niveau de qualification. Eux, ils ont des droits et ils sont au plein emploi. Et puis d'autres qui ont du mal à accéder à l'emploi, qui ont beaucoup moins de droits, y compris des droits à la formation. Et donc, c'est cette dualité qui est un peu malsaine. Et c'est sans doute sur cette dualité qu'il faut jouer. Donc, c'est pas en règle générale, mais plutôt ciblé sur des catégories.
Il faut peut-être souligner, avant d'entamer notre tour d'Europe, qu'une telle réforme, Éric Heyer, n'est pas en elle-même créatrice d'emplois.
Non, on peut même dire que si on menait que cette réforme, sans rien toucher ailleurs, ça même, dans un premier temps, en tout cas les premières années, on va dire les 3-4 premières années, ça détruirait même de l'emploi. Donc une réforme uniquement de flexibilité n'est sans doute pas la bonne mesure. En revanche, flexibiliser dans un contexte un peu plus général, en accompagnant par des mesures de sécurisation de parcours professionnel, de politique macroéconomique un peu plus adapté à la conjoncture, ça peut avoir des effets. Encore une fois, on n'est pas dans une science exacte, mais globalement, c'est dans cette mesure où on pourra avoir des effets positifs.
Première étape de notre tour d'Europe. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
France Inter à Londres, au Royaume-Uni. Antoine, pas de débat sur la réforme du Code du travail, car dans les faits, on est déjà très loin des 35 heures, par exemple.
Oui, 48 heures de travail par semaine. Ici, c'est la limite depuis 1998. Et encore, c'est une limite qu'il est possible de dépasser à condition que chaque salarié signe individuellement une clause spécifique dans son contrat qui lui permet de travailler 49 heures. Le Royaume-Uni reste donc l'un des pays où on travaille le plus, du moins en théorie, car c'est aussi l'un des pays où il y a le plus d'absentéisme dans les entreprises, absentéisme lié au stress, un arrêt de travail sur trois est lié à l'anxiété, au burn-out, c'est ce que montre la dernière étude du gouvernement sur le sujet, où on découvre aussi le montant de la facture liée aux absences pour maladie chaque année, 17 milliards d'euros, semaine de 48 heures donc, avec 8 heures de travail dans une journée et 4 4 semaines de congés par an. Voilà le cadre légal.
Et l'autre question, Antoine, c'est la forme et la rémunération de ce travail.
Notamment depuis la mise en place des contrats zéro heure, ces contrats qui permettent une flexibilité absolue, qui produisent aussi une précarité totale. Ça concerne aujourd'hui près d'1 million de personnes, un peu moins de 3% des salariés. On les trouve souvent dans les entrepôts, dans l'industrie des loisirs, dans les soins, avec des employés qui sont appelés ou qui restent chez eux en fonction des tâches à fournir. Eh bien, c'est ce que montre un rapport publié il y a 2 mois par la fondation Resolution, un think tank indépendant. Ces travailleurs précaires gagnent pour le même volume de travail, pour des tâches identiques, 1200 euros de moins chaque année que les salariés qui ont un contrat classique. Les inégalités se creusent à tous les niveaux. Les disparités entre les très bas et les très hauts salaires sont parmi les plus importants de l'OCDE, mais ça pourrait changer. Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, a réclamé il y a quelques semaines un plafonnement des plus hauts revenus et en opérant un virage marqué vers la gauche, le parti a obtenu aux législatives anticipées un résultat au-delà de toutes espérances. Jeremy Corbyn espère donc plaider dans les semaines qui viennent pour plus de justice sociale.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. Eric Heyer, on a là une dérégulation absolue. Est-elle au moins, on va en voir le coût social, mais est-elle au moins efficace sur le plan économique?
C'est-à-dire que si on juge l'efficacité uniquement à l'aune d'un critère qui est le taux de chômage, oui, on peut dire que oui, puisqu'ils sont au plein emploi. Mais derrière cette quantité mesurée par le taux de chômage, on voit que la qualité est extrêmement disparate. Et donc, ça a bien été rappelé dans votre, par votre correspondant. C'est-à-dire que effectivement, si vous avez la chance de travailler à Londres à temps complet, tout va bien, quasiment pour vous. Mais sauf que effectivement, donc ils ont un record en termes de temps complet, mais quand on regarde le temps partiel, l'écart entre les deux est assez effarant. Et les contrats zéro heure qui ont été multipliés par 4 en l'espace de 4 ans.
Donc expliquez parce que c'est contre-intuitif, contrat zéro heure.
C'est-à-dire que vous signez un contrat de travail avec votre employeur, donc vous n'êtes plus considéré comme chômeur parce que vous avez un contrat de travail, mais ce contrat de travail ne stipule pas le nombre d'heures que vous devez à votre employeur. Et c'est votre employeur qui, chaque jour ou chaque semaine, vous dit « j'ai besoin de toi, 1 heure, 2 heures », ou vous dit « non, mais aujourd'hui, c'est pas la peine de venir », et vous n'êtes payé, bien sûr, qu'aux heures que vous avez effectuées. Donc, ça ne vous garantit pas de revenus, c'est-à-dire que vous êtes complètement flexible, mais vous avez un engagement tout de même avec cet employeur. Donc ça, c'est la flexibilité qui est complète. Alors certes, ça permet de sortir des gens du chômage, mais ça a été rappelé dans votre reportage avec
un coût social qui est extrême.
Et vous voyez que vous pouvez dire que, alors qu'ils sont au plein emploi, ils sont à moins de 5% de chômage, le sentiment de déclassement est extrêmement important au Royaume-Uni, et ça explique d'ailleurs le Brexit. Donc vous voyez qu'il y a, ce sentiment, la quantité d'emplois et le taux de chômage ne sont pas les seuls indicateurs. Et aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que l'OCDE, qui est pourtant une organisation plutôt, on va dire, libérale, s'intéresse extrêmement à cette qualité de l'emploi et essaie de comprendre la réalité du marché du travail autrement que par des instruments de quantité.
Deuxième étape, direction Berlin. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
En matière de réforme du marché du travail, l'Allemagne est souvent citée en exemple, ici en tout cas. Qu'en est-il précisément, Cyril ? Le code du travail est-il vraiment plus souple chez vous ?
Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas en Allemagne de code du travail à proprement parler. C'est-à-dire que le marché du travail est encadré par un ensemble de lois spécifiques, lois sur les congés, sur le temps de travail, etc. Et des lois qui ont été en partie assouplies pour faciliter l'embauche au moment des réformes Schröder au début des années 2000. À la clé, davantage de souplesse pour les employeurs. Le recours au CDD, au contrat précaire est plus facile, sans limitation dans le temps, par exemple. Pour les salariés en CDI, en revanche, la protection des licenciements reste très stricte, comme le disait tout à l'heure Eric Heyer. Elle est même plus stricte qu'en France, sur la durée des préavis par exemple, et toute rupture de contrat doit être justifiée. Une exception toutefois, l'encadrement des licenciements ne s'applique pas aux petites entreprises de moins de 10 salariés.
Et puis autre évolution majeure, Cyril, la priorité donnée aux accords d'entreprise dans le dialogue social.
L'entreprise plutôt que la branche professionnelle, là aussi c'est un modèle dont veut s'inspirer Emmanuel Macron. En Allemagne, cette pratique est très répandue et surtout depuis 2004 avec la signature d'un accord qualifié d'historique à l'époque entre le syndicat IG Metall et l'organisation patronale de la métallurgie. Depuis, des centaines d'entreprises ont emboîté le pas. Il est donc possible de déroger aux conventions collectives, ça permet plus de flexibilité. Les salariés acceptent par exemple de travailler au-delà de 35 heures ou bien d'abandonner leur 13e mois, mais en échange, l'entreprise entreprises s'engagent sur le maintien de l'emploi et des sites. Ce système de négociation sur mesure a des avantages. Il permet par exemple aux syndicats de négocier plus facilement des hausses de salaire quand la situation de l'entreprise est meilleure. Difficile en revanche de savoir dans quelle mesure ces réformes ont contribué à la baisse du chômage qui est aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis la réunification.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci Eric Heyer. Est-ce que là on se rapproche pas tout de même de ce à quoi ressemblera la réforme voulue par Emmanuel Macron?
Oui, sur la réforme, effectivement, c'est inspiré alors soit du modèle scandinave, soit effectivement du modèle allemand. Mais il faut rappeler quand même que ce qui a fait la force de ce modèle allemand, c'est son dialogue social. C'est-à-dire que vouloir l'inversion de la hiérarchie des normes, pourquoi pas? Effectivement, qu'on négocie au sein des entreprises, pourquoi pas? Effectivement, on peut considérer que c'est plus proche du terrain. Sauf qu'il va falloir pouvoir négocier au sein des entreprises. Et c'est sans doute ça qui manque aujourd'hui en France, c'est qu'on négocie pas au sein des entreprises. Et au contraire, il y a toutes les petites entreprises qui disent on peut pas le faire à notre sein et donc il faut au moins aller dans la branche, voir un accord national. Alors qu'en Allemagne, ils ont développé, c'est ce qu'on appelle un peu la cogestion, et donc un conseil d'entreprise au sein duquel les salariés sont présents. Donc peut-être que la première des réformes à faire en France, c'est de préparer ces conseils d'entreprise, de cogestion, où on implique les salariés dans la vie de l'entreprise. Et une fois qu'on a mis en place cette première réforme, alors ensuite la réforme de l'inversion de la hiérarchie des normes se fait de façon complètement naturelle. Mais là, j'ai envie de dire qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on inverse la hiérarchie des normes, mais en disant on va négocier au sein des entreprises, mais on négocie pas extrêmement, surtout dans les petites entreprises en France.
Donc ça rend compliqué des accords compétitivité-emploi comme ceux que décrivait Cyril à l'instant.
Disons que ça risque d'être que dans un seul sens. C'est-à-dire que comme ça a été rappelé, c'est que globalement, quand ça va bien, les salaires augmentent aussi en Allemagne parce que effectivement les salariés sont partie prenante et donc comprennent qu'il faut faire des efforts quand ça va mal et comprennent aussi qu'on peut redistribuer quand ça va bien. Si vous n'êtes pas partie prenante, on peut toujours penser que il n'est pas juste de faire des efforts parce que la situation est peut-être pas si mauvaise que cela, donc on comprend pas pourquoi on doit faire des efforts et surtout on a peur de pas retrouver les fruits de cet effort plus tard. Donc je pense que la première des réformes, c'est de retrouver un dialogue social qui ne passe pas forcément par les syndicats. Le taux de syndicalisation est supérieur en Allemagne qu'en France, mais c'est pas uniquement cela, c'est aussi mettre en place, intéresser les salariés à la vie de l'entreprise et les impliquer dans un conseil d'administration, un conseil d'entreprise, trouvons notre modèle.
Troisième étape maintenant, l'Espagne qui a vu son code du travail plusieurs fois modifié ces dernières années, aussi bien par les socialistes que par les conservateurs du Parti Populaire. Alors, pourquoi autant de modifications? Pour quels effets? Marie-Hélène Ballestero.
En Espagne, la crise financière a été ces dernières années en fait le prétexte pour que les gouvernements successifs puissent imposer leur réforme du Code du travail. En juin 2010, c'est le gouvernement socialiste de Zapatero qui a adopté une réforme urgente et conjoncturelle qui a permis de réduire les coûts pour le patronat, de simplifier les licenciements et d'affaiblir les conventions collectives. L'arrivée au pouvoir fin 2011 des conservateurs du PP s'est traduite par une nouvelle réforme adoptée par décret-loi en février 2012, sans négociation préalable avec les acteurs sociaux. Afin de flexibiliser le travail pour enrayer la montée du chômage qui frôlait à l'époque les 25%, on a permis aux employeurs de revoir les conditions de salaire et de travail en cas de difficulté économique de l'entreprise. Concrètement, cela leur a donné les outils pour faciliter l'entrée et la sortie des salariés en jouant sur la flexibilité interne. Cette réforme a aussi contribué à redéfinir et assouplir les conditions de licenciement économique. Les entreprises peuvent y avoir recours dès qu'elles entrent en perte ou qu'elles subissent pendant 3 trimestres consécutifs une baisse de leurs ventes ou de leurs revenus. Au final, cette réforme de 2012 a permis de faciliter et de réduire encore davantage les indemnités de licenciement tout en décentralisant la négociation collective et en donnant priorité aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Tandis que le patronat a salué ce grand coup de flexibilité, les syndicats et l'opposition ne cessent aujourd'hui encore de dénoncer une réforme agressive contre les droits des travailleurs. Quant au gouvernement Rajoy, 5 ans plus tard, il est toujours toujours aussi fier de sa réforme du Code du travail qui a permis, selon lui, à l'Espagne de créer des emplois. Le taux de chômage ayant passé d'environ 25% en 2012 à près de 18% actuellement.
C'est pas miraculeux, hein. La réforme est rude, mais le résultat, effectivement, il y a une baisse de chômage, du chômage de 7 points, mais on voit bien qu'en activant ce levier-là, qui est la réforme pure et simple du Code du travail, on ne génère pas d'activité économique stupéfiante, ou peu en tout cas.
Non, c'est-à-dire que du coup, quand ça va bien, vous créez plus d'emplois, mais quand ça va mal, vous en détruisez beaucoup plus. Il faut rappeler, en 2007, juste avant la crise économique, le taux de chômage en Espagne était à 8%. Et on est passé de 8% à quasiment 25% en l'espace de 3 ans. Donc le marché du travail était déjà flexible. On a encore plus flexibilisé. Et puisqu'il y a une reprise économique, mais qui n'est pas liée à cela, qui est liée au fait qu'ils ont fait beaucoup d'austérité pendant une période, ils ont baissé les salaires, ils ont gagné en compétitivité, la croissance repart. Et donc là, on recrée les emplois. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont commencé par détruire 3 700 000 emplois entre 2008 et 2013. Et là, ils en créent 1 200 000. Mais la somme de tout cela, ça fait quand même moins 2 500 000 emplois et un taux de chômage aux alentours de 18%, mais avec un halo qui les fait monter au-delà des 20. Donc, vous voyez, on pense qu'en France, on est très mal avec nos 9 ou 10% de chômage, mais vous voyez, il faut se mettre dans la position espagnole. Donc, non, ce n'est pas ça qui permet réellement de créer de l'emploi et du dynamique. Ça peut permettre un tout petit peu de l'ajuster, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une sorte de croissance économique relativement stable et dynamique pour que ce modèle puisse générer des emplois. Et vous voyez que avant qu'ils retrouvent leur niveau d'avant-crise, les calculs de l'OCDE nous indique qu'il faut à peu près 10 ans sans crise économique, ce qui est un peu mission impossible.
On l'entendait dans le papier de Marie-Hélène, ça rappelle un peu l'état du débat en France. Hein. Mmh. Aujourd'hui, il y a des mots comme ça qui résonnent, des mesures qui sont esquissées et qui sont là dans le débat public aujourd'hui.
Ah oui, non, mais bien entendu qu'on a envie, parce que si on a une mémoire de poisson rouge et qu'on regarde que les derniers trimestres ou la dernière année, on dit mais l'Espagne c'est génial, ils font 3% de croissance économique et créent de l'emploi. Comment ont-ils fait? Ah tiens, c'est parce qu'ils ont fait une réforme du marché du travail. Non, ça c'est vraiment une vision un peu trop simpliste des choses. Et dire que finalement, il suffirait d'appliquer cette méthode en France. Donc ça ne fonctionne pas. On a maintenant du recul. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas adapter le code du travail, qu'il ne faut pas faire des réformes structurelles, mais il faut que celle-ci soit accompagnée de mesures bien plus globales et une simple réforme comme ce qu'on fait en Espagne, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça a une apparence de fonctionnement, mais qui est une apparence extrêmement trompeuse.
Dernière étape, les pays du nord de l'Europe où est né le système dit de la flexi-sécurité ou de la flexi-sécurité, les conventions collectives, Anne-Françoise Hiver, chez vous, prévalent.
En effet, en Suède, au Danemark ou en Finlande, le droit du travail est comme ailleurs réglementé par la loi, mais en partie seulement, car dans la pratique, ce sont les conventions collectives qui règlent la vie des Nordiques au travail. Pas de salaire minimum fixé dans la loi, par exemple, mais au niveau de chaque branche, en concertation par les partenaires sociaux. Les conventions collectives sont renégociées tous les 2 ou 3 ans. L'État se tient à l'écart, c'est le consensus qui domine, et si parfois les syndicats menacent de faire grève, en général, un accord finit toujours par être trouvé, et ce grâce à un taux de syndicalisation record, 70% en Suède, presque autant au Danemark et en Finlande. Le maître mot est le pragmatisme. Pendant la crise de 2008, par exemple, le syndicat de la métallurgie suédois a accepté une baisse de la durée du temps de travail assortie d'une diminution des salaires, le temps que l'activité reparte. Un modèle nordique qui combine flexibilité sur le marché du travail avec une sécurité pour les salariés, des allocations chômage garanties, de la formation continue, des programmes d'activation. Ces dernières années, cependant, les réformes ont fait la part belle à la flexibilité dans des économies largement dépendantes de la globalisation, au détriment parfois de la sécurité. Les Finlandais, par exemple, sont soumis depuis 2016 à une sévère cure d'austérité, introduction d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie, suppression de 2 jours fériés, baisse de 20 à 50% de la durée d'indemnisation chômage.
Voilà, on flexit, hein, mais les sécurités réduites comme peau de chagrin.
Oui, c'était vraiment le modèle de flexi-sécurité avec énormément de sécurité. Là, avec la crise économique et l'augmentation de la dette publique et donc la dégradation des finances publiques, ils sont allés effectivement vers toujours la même flexibilité, mais un peu moins de sécurité. Typiquement, l'assurance chômage qui était ouverte avec une durée extrêmement longue, aux alentours de 4 ans, est passée à 2 ans. On voit bien que le renforcement du contrôle des chômeurs est bien plus important et on essaye de les conditionner à une reprise d'emploi, même si celle-ci est juste un travail d'utilité générale. Donc effectivement, le filet de sécurité est de moins en moins fort, mais il est tout de même important. Il est quand même plus important que dans nos pays européens. Et donc, ça reste tout de même un modèle qui a une contrepartie qui est tout de même des dépenses d'assurance chômage, alors qu'ils ont un chômage plus faible, supérieur à ce que l'on a aujourd'hui, admettons, en France. Et donc, on voit là le triangle peut-être d'incompatibilité de ce gouvernement qui veut à la fois flexibiliser, sécuriser, mais réduire aussi l'assurance chômage, c'est-à-dire que l'ouvrir à tout le monde, donc c'est ça le côté sécurité, mais en l'ouvrant à tout le monde, ils veulent aussi faire des économies de 10 milliards sur l'assurance chômage. Donc ça veut dire donner moins par chômeur. Et donc là, on s'écarte de façon significative de ce qui se passe tout de même dans les pays scandinaves.
Est-ce que le point commun aussi qu'on peut voir entre l'Allemagne et les pays du Nord que décrivait Anne-Françoise à l'instant, c'est le poids des syndicats. On sait que c'est un poids beaucoup plus important qu'en France, mais la CFDT a dit aujourd'hui, Laurent Berger, qu'il fallait que les syndicats français cessent de dire ce contre quoi ils sont pour essayer de formuler ce pourquoi ils sont. Est-ce que là, on aurait eu un changement de pied, au moins d'un syndicat, qui permettrait de retrouver un type de co-gestion ou de co-décision à l'allemande ou à la suédoise ?
Non, mais il est certain que pour qu'une réforme prenne, il faut qu'elle soit bien expliquée et bien admise par l'intégralité des salariés. Et donc, c'est là où le rôle des corps intermédiaires est essentiel. Et donc, des syndicats qui ne font que s'opposer n'aident pas à cela. Et donc, effectivement, il faut aussi des mesures, il faut qu'ils soient aussi force de proposition. Et donc, de ce point de vue-là, les syndicats sont en train de changer. Et FO aussi est en train de changer en disant il faut sans doute des réformes, mais c'est surtout la contrepartie. C'est sur les contreparties qu'il faut
l'autre
négocier.
Flotteur.
Et donc, c'est effectivement, pourquoi pas aller vers plus de flexibilité, mais à condition que les filets de sécurité soient encore plus important. Et donc là, aujourd'hui, en France, on voit bien que on commence par négocier la flexibilité, ce sont les ordonnances, et on promet que ensuite, en fin d'année, on va négocier les filets de sécurité, c'est-à-dire c'est sur l'assurance chômage, c'est sur la formation, ce sont le compte personnalisé pour chaque salarié. Et il me semble que c'est ça qui est dans la balance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans doute, les syndicats négocient un peu plus de flexibilité, mais avec des contreparties qui vont venir. Alors, est-ce que ils vont pas perdre ce pari-là, mais il me semble que c'est celui-ci qu'il faut jouer. C'est pourquoi pas la flexibilité, mais en s'assurant que en fin d'année, on aura ce filet de sécurité, ou alors le mieux, ça aurait été de dire, on négocie tout en même temps le côté flexibilité et sécurité, mais ça, c'est le gouvernement qui fixe l'agenda pour l'instant.
C'est très clair. Merci beaucoup, Eric Heyer, de vous être prêté au jeu des comparaisons, comme vous l'avez fait si souvent au micro d'Un jour dans le monde, département analyse et prévision de l'OFCE. À suivre, le journal de l'International. 18h40, merci d'écouter Inter. Singané sur Inter, ailleurs dans le monde.
Datiadas 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction la bande de Gaza, un peu plus de 2 millions d'habitants et une crise humanitaire qui ne cesse, Michael, de s'aggraver.
Et on en parle ce soir à travers un aspect rarement évoqué et pourtant symptomatique, c'est la pénurie d'électricité, des années que cela dure. Mais aujourd'hui, la situation empire. Depuis 2 mois maintenant, Gaza n'est alimenté en courant que 4 heures par jour maximum. Catastrophe sanitaire et économique, sans parler du simple confort quotidien des Palestiniens. Bonsoir Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem.
Bonsoir.
Alors vous rentrez tout juste de la bande de Gaza, Étienne. La situation est-elle aussi critique que cela ?
C'est critique et ça semble difficilement supportable sur le moyen terme. On le sent quand on visite le service de néonatologie de l'hôpital Al-Shifa. Le docteur Sami Sahir explique que chaque coupure d'électricité crée un risque vital et qu'il faut parfois intervenir manuellement pour maintenir en vie les bébés qu'on voit dans les couveuses.
C'est une vraie situation de crise, notamment pour assurer la ventilation à l'intérieur des couveuses. Il faut des fois passer en ventilation manuelle. Le générateur s'arrête parfois et donc il n'y a plus d'électricité. Des fois, c'est parce qu'il n'y a plus de carburant. Des fois parce qu'on n'a pas de filtre, des fois pour d'autres raisons encore. La situation est catastrophique.
Pour sa survie, Gaza est branché sur un réseau de générateurs. Dans le milieu hospitalier, les machines tournent au moins 20 heures par jour au bord de la surchauffe, explique Ashraf Al-Khodra, le porte-parole du ministère de la Santé.
On a une équipe technique qui travaille 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les générateurs électriques fonctionnent en permanence. Ils surveillent les niveaux d'huile, ils font en sorte qu'on puisse faire tourner les équipements vitaux des hôpitaux. Et grâce à ça, on peut dire avec fierté qu'il n'y a pas eu un seul décès dans la bande de Gaza en 10 ans à cause d'une coupure d'électricité.
Bon, et pour tous ceux, c'est-à-dire la majorité quasiment, hein, qui n'ont pas de générateur, Étienne, comment font-ils ?
Bah par exemple, Emian Moussa, c'est une mère de famille, elle a 3 enfants, elle n'a pas de frigo. Sa fille révise le soir à la bougie, la famille est en quelque sorte tenue à l'écart de la modernité. Mais il y a aussi une transformation dans les relations sociales. Cette mère de famille se sent maintenant en insécurité la nuit, menacée, dit-elle, par les cambrioleurs.
Certains profitent de la situation, ils se disent « l'électricité est coupée, il fait nuit ». La situation est vraiment mauvaise. Plein de jeunes se spécialisent dans ce genre de choses. Ils passent par la fenêtre et ils volent des choses.
Et on comprend évidemment ces craintes. Mais pourquoi un tel déficit électrique, Étienne ? Et pourquoi la situation continue-t-elle comme ça de s'aggraver ?
C'est une crise intra-palestinienne. L'autorité palestinienne à Ramallah refuse de payer les factures pour le Hamas qui dirige Gaza. La centrale de l'enclave s'est arrêtée il y a 2 mois et c'est maintenant l'alimentation qui vient des lignes israéliennes qui devrait se réduire d'environ 1 heure. Conséquence d'une nouvelle politique assumée par le président de l'autorité palestinienne, explique le politologue Hassan Khatib.
Mahmoud Abbas dit en quelque sorte au Hamas, si vous voulez contrôler Gaza et si vous ne voulez pas de la réconciliation, eh bien, vous devez être responsable financièrement pour Gaza. Vous ne pouvez pas nous faire porter la responsabilité financière et continuer à diriger Gaza seul. Si vous voulez Gaza, prenez Gaza, mais avec ses difficultés et ses problèmes.
Gaza est placé sous respirateur artificiel. La production des générateurs est portée à bout de bras par l'ONU, qui finance 800 000 litres de fuel par mois et qui considère, par la voix du coordinateur humanitaire Robert Piper, que cette crise est également liée aux carences imposées par le blocus israélien.
Cette crise s'installe depuis une décennie. C'est aussi lié au fait que Gaza est placé sous blocus. L'usine d'électricité de Gaza aurait dû être convertie pour produire à partir du gaz, et cela depuis des années. Gaza devrait être capable d'importer beaucoup plus d'électricité depuis les lignes israéliennes. Ces grands projets d'infrastructures sont sur la table depuis des années, mais il n'y a aucune avancée.
Le blocus a été imposé après la prise militaire de Gaza par le Hamas. C'était il y a 10 ans, presque jour pour jour, le Hamas qui agite maintenant la menace d'une flambée de violence.
Étienne Monin, en direct de Jérusalem et donc de retour de Gaza. Merci beaucoup.
Et l'on reparle maintenant, Michael, des législatives en France, législatives vues par la presse internationale.
Et une presse qui, dans sa très grande majorité, se dit impressionnée par les résultats du premier tour. Emmanuel Macron est désormais sur une voie royale, titré en une hier le quotidien belge Le Soir, convaincu que le jeune président français aura dimanche prochain les mains totalement libres pour gouverner. La République en marche déferle sur la France, assure la tribune de Genève, quand le Washington Post renchérit par, je cite, « la prise de contrôle du pays par Emmanuel Macron est quasi totale, un véritable triomphe pour l'espagnol El País ». Plus impressionné encore, l'hebdomadaire britannique The Economist, qui estime même que la France est en train de faire sa révolution démocratique, un résultat stupéfiant pour un parti créé il y a tout juste 14 mois. En une année, ce président a défié toutes les règles gouvernant la politique française et son compatriote du Times d'ajouter « la France n'aura pas vu un tel ménage parlementaire depuis la Première Guerre mondiale ». Tout aussi dithyrambique la presse allemande, qui salue le meilleur scénario possible pour l'Europe. Ainsi la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui parle là encore d'une révolution en cours. Les partis traditionnels français sont balayés, écrit le journal, qui explique ce résultat par la déception des électeurs face au manque de résultats produits par l'alternance entre les socialistes et les conservateurs. Une alternance qui a conduit depuis des décennies en France à un manque de réformes et même à une impasse économique. Chamboule tout et réforme également au cœur de l'analyse de Lorient Le Jour. Le quotidien libanais présente le score du camp présidentiel comme un camouflet pour la droite, pour le Parti Socialiste et pour le Front National. Camouflet qui devrait permettre au président français de mener sans entrave dès lundi prochain son programme de réforme. Et il y en a comme ça, des kilomètres dans la presse étrangère. Une macromania qui, heureusement, a ses limites, Nicolas. Ainsi, dans les colonnes du Temps, où l'on nous dit que jamais couronne présidentielle, aussi brillante soit-elle, n'aura été aussi fragile et chargée d'espoir comme de chausse-trappe. On voit bien le danger, écrit le quotidien suisse, danger d'une opposition qui, hors du Parlement, se jouera dans la rue. Même tonalité pour le Tagesspiegel, qui dit espérer que le programme Macron devienne réalité. Mais pour cela, estime le journal allemand, il y a une première condition, que le président français parvienne à faire adopter sa réforme du droit du travail sans jeter les syndicats sur les barricades. Le Financial Times s'inquiète, lui, de cette déferlante annoncée de députés inexpérimentés. La moitié des candidats de La République En Marche n'ont jamais occupé de poste politique auparavant. Que va-t-il se passer quand ils seront en fonction ? Inquiétude aussi du Washington Post, pour qui le taux d'abstention record de dimanche dernier pourrait bien obscurcir la présidence Macron. Quid du second tour ? Si la participation n'est pas plus forte, quelle sera sa légitimité parlementaire ? En Allemagne, le Zeit Online va jusqu'à dire qu'avec cette abstention, eh bien le nouveau président a la future assemblée derrière lui, mais pas nécessairement le peuple français. Le site de l'hebdomadaire rappelant qu'en France, les réformes n'échouent jamais au Parlement, mais presque systématiquement en raison des manifestations dans la rue. Enfin, en Russie, la voix du Kremlin, Russia Today, n'hésite pas, Nicolas, à parler de menace. Si les projections pour dimanche prochain se confirment, il y aura en France, je cite, la menace d'un président absolu. La République En Marche va tout rafler et ne laissera aucune place à l'opposition. Quand on connaît la place laissée à l'opposition russe, on peut sourire. Pour finir, Nicolas, coup de chapeau au docteur Samuel West. C'est un psychologue américain du travail installé en Suède et qui a ouvert la semaine dernière à Helsingborg, dans l'ouest du pays, un petit musée pas banal. Le musée des échecs commerciaux, toute une collection de produits de consommation qui ont tous été de véritables flops. Car ce psychologue en est persuadé, ces innovations ne méritent pas de rester dans l'oubli. Il y voit au contraire une formidable source d'enseignement. Le premier étant que l'échec fait partie intégrante du processus d'innovation et donc de la volonté d'entreprendre. Il ne faut pas brider l'audace, dit-il. Alors voici quelques-uns de ces objets exposés. Une paire de Google Glass, un Minitel, tiens, un lecteur de Betamax, système qui était censé c'est concurrencer vieux, ça, les cassettes vidéo. Windows 8, la grande faille Microsoft. Un téléphone créé par une grande marque scandinave il y a peu de temps, mais uniquement fait pour envoyer des tweets. Flop. Des stylos Bic spécial femme. Ne me demandez pas la particularité de l'objet, je n'en sais rien. Vous trouverez aussi le Coca-Cola Black. C'était un coca parfumé au café. Échec total. Tout comme le parfum Harley Davidson avec petite effluve de cambouis garantie. Ou encore des chips sans aucune, mais vraiment aucune calorie, made in des plus efficaces laxatifs, ou alors ces lasagnes au bœuf estampillées Colgate, sans oublier le jeu de société Trump, jeu intitulé I'm back and you're fired, je suis de retour et tu es viré, l'un des grands flops de Donald Trump.
À demain, Michael Thébault. Little Richards sur Inter, puis Little Anthony pour l'édito. Little Richard sur Inter, 18h54.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et que c'est bon mélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
À la veille du second tour des législatives en France, vous avez voulu, Anthony, prendre le pouls des gauches européennes.
Il faut dire que la gauche française est dans un tel état de déliquescence que j'ai voulu visiter un peu nos voisins, histoire de donner de l'espoir, hein, d'imaginer des solutions, de chercher des modèles d'avenir. Eh bien Nicolas, le voyage est aussi déprimant que le rayon fruits et légumes d'une supérette bio du 10e arrondissement de Paris. C'est dire.
Oui, c'est dire.
Pour comprendre, commençons par l'actualité. Aujourd'hui, en Espagne, le Parlement discute d'une motion de censure. Un texte introduit par les indignés de Podemos, le parti frère des insoumis français. Une épure, cette motion. Une occasion en or de dire à la droite espagnole, je cite, « corrompus, franquistes et machistes, et cet après-midi, sont faits, donc, la télé est là, les orateurs se succèdent et se surpassent, ils n'ont pas, eux non plus, de pudeur de gazelle. Et puis, cette motion est une horloge mécanique de précision machiavélique. Elle a permis à la gauche de la gauche de démontrer la duplicité de ce soi-disant parti de gauche qui est le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, le PSOE, qui a refusé de la voter.
Donc cette motion n'a aucune chance, Anthony.
Eh ben aucune, absolument aucune. Mais quelle est belle ma motion, quelles sont belles ces images télé, quelle joie indicible de voir l'éternel nouveau secrétaire général du PSOE, Pedro Sanchez, vous savez, s'emberlificoter dans les sophismes pour justifier son abstention, mais au bout, rien. En fait, ce qui se passe en Espagne est à l'image de ce qui arrive dans toute l'Europe, des gauches divisées dont les haines recuites et centenaires ne prennent même plus la peine de se dissimuler. Et à la fin, la défaite, encore la défaite, toujours la défaite. Pour vous donner une idée de l'incommensurable arrogance de ces gauches atrabilaires et centripètes, sachez que Podemos a préféré faire revoter une seconde fois en un an près de 36 millions d'Espagnols parce que le premier résultat électoral ne leur convenait pas. Alors que voulait-il obtenir, hein ? Eh bien, comme les insoumis de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui rêvent de ratatiner les communistes et les socialistes, Podemos ne supportait pas d'être arrivé second derrière les socialistes. Ils ont donc fait capoter une coalition de gauche qui pouvait fonctionner pour retourner aux urnes.
Ils ont joué, Anthony, et ils ont perdu. Hein.
Non seulement ils ne sont pas passés devant les socialistes espagnols, mais en plus, ils ont rapetissé la gauche espagnole. C'est une leçon qui vaut pour toute l'Europe. La division, les calculs politiciens si brillants, mais si éloignés des électeurs, eh bien conduisent immanquablement à la défaite. Et pourtant, la solution est à portée de main. Il suffit de faire son marché de l'autre côté de la Manche. Pour les sociodémocrates concurrencés par l'extrême-gauche, de l'Allemagne à l'Italie, en passant donc par l'Espagne et la France, une des solutions s'appelle Corbyn. Alors bien sûr, il n'a pas obtenu la semaine dernière une majorité suffisante pour devenir Premier ministre. Mais ce n'était pas le but, ça ne l'a jamais été d'ailleurs de Jeremy Corbyn. Son but est de ranimer un parti travailliste moribond à force de compromis et d'abdications successives. Reprendre les problèmes des Britanniques les uns après les autres. Santé, éducation, logement, transport, des sujets très ennuyeux, je vous l'accorde, mais au cœur des inquiétudes actuelles. Non pas en faisant rêvant le monde, mais en travaillant au corps les questions sociales. Et surtout, pas de leçons de choses, pas d'anathème. Jeremy Corbyn est l'homme le moins charismatique, le moins lyrique de l'arc politique britannique. Il a même réussi l'exploit de remobiliser la jeunesse britannique et de ramener à lui les classes populaires.
Mais en fin de compte, il a perdu.
Oui. Mais comme Bernie Sanders aux États-Unis, le but n'est pas de gagner, je le répète, en tout cas pendant un premier temps, mais bien de reconstruire une identité. Le prochain Premier ministre britannique ne sera, et travailliste ne sera certainement pas Jeremy Corbyn, mais celui ou celle-là eh bien, devra faire avec ce travail de fond effectué aujourd'hui. Alors messieurs et mesdames, au boulot.
Anthony Bélanger, merci.